Michel Zévaco. Les Pardayans. Tome numéro 4. Fausta vaincu. Chapitre 1. La flagellation de Jésus. Une foule immense était rassemblée sur la grève, non plus cette fois pour y voir un beau spectacle de pendaison, une jolie estrapade ou une intéressante grillade d'hérétiques, mais simplement pour assister au départ de la grande procession organisée pour porter au roi Henri III les doléances de la bonne ville de Paris. Pour la grande majorité des Parisiens, il s'agissait de réconcilier le roi avec sa capitale en obtenant bien entendu un certain nombre d'avantages, parmi lesquels on plaçait au premier rang le renvoi du duc d'Épernon et du seigneur d'Eau, qui avait quelque peu abusé du droit de pressurer les bourgeois. Pour une autre catégorie moins nombreuse et initiée à certains projets de Monseigneur de Guise, il s'agissait d'imposer à Henri III une terreur salutaire et d'obtenir de lui, moyennant la soumission de Paris et son repentir de la journée des barricades, une guerre à outrance contre les Huguenots, c'est-à-dire leur extermination. Pour une troisième catégorie, moins nombreuse encore et initiée plus avant dans les projets des chefs de la Ligue, il s'agissait de s'emparer du roi, de l'enfermer en quelque bon couvent et de le déposer après l'avoir préalablement tondu. Enfin, pour une quatrième catégorie réduite à une douzaine d'initiés, il s'agissait de tuer Henri III. Tout le monde était donc content. Non seulement la grève était noire de monde, mais encore les rues avoisinantes regorgeaient de bourgeois qui, la salade en tête, la pertuisane d'une main, un cierge de l'autre et le chapelet autour du cou, se disposaient à processionner jusqu'à Chartres. Ajoutons qu'en dehors des ligueurs qui, pour une des raisons énumérées plus haut, voulaient pénétrer dans la ville où s'étaient réfugiés Valois, en dehors de ces étranges processionnaires armés jusqu'aux dents, un nombre considérable de mendiants s'était mis de la partie. En effet, le voyage à Chartres, en tenant compte des lenteurs d'un pareil exode, devait durer 4 jours. Le duc de Guise avait fait crier qu'il avait disposé 3 gîtes d'étape le long du chemin et qu'à chacun de ces gîtes, on tuerait 50 bœufs et 200 moutons pour nourrir le peuple en marche. Tout ce qu'il y avait de mendiants à Paris avait donc vu dans cette procession une rare occasion à ripaille et franche lipée. Ce jour-là, donc, vers 8 heures du matin, les cloches des innombrables paroisses de Paris se mirent à carillonner. Sur la place de Grève vinrent se ranger successivement les délégués de l'hôtel de ville, les représentants des diverses églises, curés ou vicaires, puis les confréries, les théories de moines telles que Feuillant, Capucin, et enfin les pénitents blancs qu'on remarquait spécialement. En effet, c'était Henri III lui-même qui, un lendemain de débauche, avait fondé la confrérie des pénitents blancs. Enfin, vers 8 heures, le Te Deum ayant été chanté à Notre-Dame en présence du lieutenant général de la Ligue, c'est-à-dire d'Henri le Saint, la procession s'ébranla parmi d'immenses acclamations, des cris frénétiques de « Vive la Ligue ! Vive le grand Henri !» et dans le tumulte des bombardes éclatant sur les remparts. Parmi les files interminables de cierges et d'arquebuses, on vit dans cette procession des choses magnifiques. D'abord les 12 apôtres en personne, revêtus d'habillements tels qu'on en portait du temps de Jésus-Christ. Seulement ces dignes apôtres, sous leurs tuniques à la romaine, laissaient voir la cuirasse et ils ne s'étaient pas gênés pour se coiffer de casques à panache, ce qui les faisait paraître bien plus beaux. Après les apôtres venaient quelques soldats romains, portant les instruments de supplice de Jésus-Christ. L'un agitait une lance, un autre tenait une perche, au bout de laquelle était fixée une éponge. Un troisième portait un seau. Mais le plus beau venait ensuite. En effet, Jésus-Christ lui-même était représenté par un personnage qui traînait une immense croix. Ce personnage n'était autre qu'Henri de Bouchage, duc de Joyeuse, lequel, comme on sait, avait pris l'habit de Capucin sous le nom de frère Ange et devait plus tard rejeter le froc pour guerroyer, puis rentrer encore en religion. Le duc de Joyeuse, donc, ou frère Ange, comme on voudra, portait sur ses épaules une croix qui, par bonheur, était en carton. Sur sa tête, une couronne d'épines, également en carton peint, et autour du cou, par un bizarre anachronisme, le chapelet des ligueurs. Il avait la figure barbouillée de rouge pour figurer le sang. Près de lui marchaient deux jeunes capucins, dont l'un représentait Madeleine et l'autre la Vierge. Derrière Joyeuse, déguisée en Christ, venaient deux grands gaillards qui le fouettaient, ou faisaient semblant de le fouetter, ce qui soulevait dans la foule des cris d'indignation. Et cette indignation, vraie ou feinte comme le reste, prenait des proportions de rage lorsque, par un anachronisme plus bizarre encore, mais on n'y regardait pas de si près, les deux flagellants, tous les 15 ou 20 pas, s'écriaient « C'est ainsi que les Huguenots ont traité notre Seigneur Jésus !»« Mort aux parpaillots !» reprenait la foule de très bon cœur cette fois. Moines, prêtres, ligueurs, cierges, arquebuses, flagellants, apôtres et Jésus, tout ce monde sortit de Paris et prit la route d'Orléans, c'est-à-dire la route de Chartres, parmi les cantiques et les cris de guerre. À une 20aine de pas derrière Jésus, ou frère Ange, ou duc de Joyeuse, marchaient côte à côte 4 pénitents qui, se tenant par le bras, tête baissée, capuchon sur le visage, se faisaient remarquer par leurs énormes chapelets et par leur piété extraordinaire. Peu à peu, le désordre s'étant mis dans les rangs de la procession, ces 4 pénitents finirent par se trouver derrière Jésus au moment où celui-ci, d'une voix retentissante, criait « Mes frères, morts aux Huguenots maudits qui m'ont flagellé !» Une acclamation salua ces paroles du Christ qui, ayant essuyé la sueur qui coulait de son front, continua. « Puisque nous allons voir Hérode, le roi !» interrompit une voix impérieuse. « Dites le roi, messire, puisque Paris se réconcilie avec sa majesté !»« C'est juste, sire de Bussy-le-Clerc, reprit Jésus-Christ. « Donc, mes frères, puisque nous allons voir le roi, nous devons avant tout obtenir qu'il renvoie ses ordinaires. Mort aux ordinaires !»« Très juste, dit Bussy-le-Clerc, mort aux 45 !»« À mort ! À mort !» reprit la foule des pénitents. « En route donc, dit Jésus. » Et la procession, dont la marche s'était trouvée interrompue, reprit son cours. Elle s'étendait sur une longueur d'une bonne lieue. Et, quelques heures après avoir quitté Paris, tout ce monde marchait à sa convenance, sans ordre arrêté. Bien avant de ce troupeau, Guise, Mayenne et leurs frères, à cheval, entourés d'une 50aine de gentilshommes bien armés, s'entretenaient à voix basse de choses mystérieuses. Quant aux 4 pénitents que nous avons signalés, ils causaient entre eux sans précaution. En effet, tels étaient les cris, les chants de guerre et les cantiques qu'il leur était difficile de s'entendre. « Dis donc, Chalabre, disait l'un, as-tu entendu, frère Ange ?»« Par les cornes du beau-duc, je crois bien, sainte Maline. »« J'ai envie de frotter un peu les côtes de Messire Jésus. » dit un troisième pénitent. Calme-toi, mon Séri, reprit Chalabre. Joyeuse nous paiera son discours plus cher qu'il ne le pense. Messieurs, dit le quatrième, jouons bien notre rôle jusqu'à ce soir, et puis nous verrons. Es-tu bien rétabli, mon cher Loigne, ta blessure? Eh, le coup fut bien appliqué. Le cher duc n'y va pas de main morte quand il frappe. J'ai cru que j'étais mort. Et sans ce digne astrologue, « N'importe, je veux que Guise reçoive de ma main le même coup qu'il m'a porté. »« Tu es ingrat, Loigne, » dit Montséri. « Comment serions-nous sortis de Paris s'il n'avait eu l'idée d'aller en procession voir notre sire ?»« Oui, » fit sourdement Loigne, « il va à Chartres, mais du diable s'il en revient. »« Il y va pour demander nos têtes au roi, » ricana Chalabre. « Et les offrir ensuite à Bussy-le-Clerc et à Joyeuse. » continua sainte Maline. Messieurs, dit Loigne, Joyeuse a crié tout à l'heure, mort aux ordinaires. Bussy-le-Clerc a crié, mort aux 45. Joyeuse est un misérable fou et ne vaut pas son coup de poignard. Quant à Leclerc, il n'arrivera pas à Chartres. Est-ce dit ? C'est dit, reprirent les trois autres. Laissant les 4 spadassins, 4 des ordinaires d'Henri III, à leurs projets de vengeance et de meurtre, nous laisserons s'éloigner la fantastique procession en marche sur Chartres et nous rejoindrons une litière fermée qui vient à quelques centaines de toises derrière la colonne. Cette litière était entourée par une douzaine de cavaliers qui jetaient sur quiconque approchait un regard si menaçant que les plus curieux ou les plus audacieux s'écartaient à l'instant même. Dans cette litière se trouvaient deux femmes, Fausta et Marie de Montpensier. « L'homme ?» demanda Fausta au moment où nous rejoignions la litière. Confondu dans la foule des pénitents, il chemine en silence, débattant sans doute avec lui-même comment il parviendra jusqu'à Hérode. « Vous êtes bien sûr que ce moine se trouve dans la procession ?» insistait Fausta. « Je l'ai vu !» répondit la duchesse. « Vu de mes propres yeux !» Fausta soupira et murmura. « Pardaillon m'avait dit vrai. Jacques Clément, libre, marche à sa destinée. Allons, Valois est condamné. Rien ne peut le sauver maintenant. Que dites-vous, ma belle souveraine? Il me semble que vous avez prononcé un nom, celui du sire de Pardaillan. Oui, dit Fausta en regardant fixement la duchesse. C'est que ce nom, mon frère et ses gentilshommes le prononcent bien souvent depuis 3 ou 4 jours. Eh bien, si vous voulez que votre frère ne prononce plus ce nom. Moi, ça m'est égal, je vous jure, fit Marie en riant. Elle était très gaie, la jolie duchesse. Elle gazouillait, fredonnait, jouait avec ses ciseaux d'or et, somme toute, marchait à l'assassinat d'Henri III comme à une fête. En revanche, Fausta, dont le visage ne témoignait d'ordinaire d'aucune agitation, paraissait bien sombre. Oui, reprit-elle, cela vous est égal à vous. Mais il est nécessaire que le duc de Guise ait l'esprit libre pour ce qui va être entrepris. Et pour qu'il ait l'esprit libre, il faut qu'il n'ait plus ce nom de Pardaillan sur les lèvres. Et pour qu'il ne le prononce plus... Eh bien, demanda Marie. Dites-lui, faites-lui savoir, dès que nous serons entrés dans Chartres, que Pardaillan est mort. Et afin qu'il n'ait point de doute, dites-lui que c'est moi qui l'ai tué. Ayant ainsi parlé, Fausta baissa la tête et ferma les yeux, comme pour indiquer qu'elle voulait se renfermer dans ses pensées. Et ses pensées devaient être funèbres, car son visage, dans son immobilité, semblait refléter la mort. Nos personnages sont donc ainsi disposés. En tête de ce long serpent de foule qui se déroule sur la route, un groupe de cavaliers, Guise, ses frères, ses gentilshommes. Près de lui, Menneville, insoucieux, et Maurevers inquiet, le regard sans cesse en alarme. Quant à Bussy Leclerc, il s'intéresse à la procession sans doute, car il en parcourt les rangs et on le voit tantôt sur un point, tantôt sur un autre. Puis, derrière cette bande de seigneurs, à une certaine distance, commence la procession, la théorie des moines et des prêtres, escortée de ligueurs, flanquée de mendiants. Puis viennent les apôtres et joyeuses qui continuent à crier que les huguenots le meurtrissent. Puis, presque sur les talons de Jésus, marchent Loigne, Sainte-Maline, Chalabre et Montséry, déguisés en pénitents. Puis, presque à la queue de la colonne, un moine marche seul, le capuchon sur la figure, et ses mains croisées serrent avec ferveur contre sa poitrine une dague solide, c'est Jacques Clément. Enfin, 13 en arrière, c'était la litière de Fausta. De ce peuple en marche montait une sourde rumeur, composée de prières, de cris, d'éclats de rire, de chants bachiques et de cantiques religieux. Et cette rumeur attirait les gens des hameaux et des villages. De toutes parts, les manants accouraient pour voir ce spectacle extraordinaire. Nous ne suivrons pas la procession sur tout le chemin qu'elle parcourut dans ces 4 journées de marche. Disons seulement que le 4e jour, vers 11 heures du matin, elle apparut devant la porte Guillaume après avoir contourné une partie des murailles de Chartres. Mais avant de l'y rejoindre, signalons un événement qui se passa la veille. Le 3e jour, la procession se reposa dans le village de La Trappe, l'un des gîtes d'étape organisés par le sieur Crucet, promu au rang de maréchal des logis de cet exode. Les pénitents y étaient arrivés vers 4 heures et aussitôt s'étaient mis à table, c'est-à-dire qu'ils avaient envahi une immense prairie où ils étaient assis dans l'herbe. Naturellement, Guise et sa suite avaient pris leur logis dans les meilleures maisons du village. Dans la prairie, les gens de la trappe allaient et venaient, empressés à faire bon accueil aux pénitents. Ces braves gens avaient fait cuire d'innombrables fournées de pain, avaient mis en perce une trentaine de tonneaux de cidre ou de vin et avaient allumé de grands feux dans la prairie. Devant ces feux rôtissaient des moutons entiers, des quartiers de bœufs suspendus à des cordes, des cochons qui, accrochés à des perches en faisceaux, tournoyaient lentement au-dessus des flammes, et enfin un régiment de dindons et de poules. Après cette énorme ripaille que nous regrettons de n'avoir pas le temps de décrire, chacun s'enveloppa de son manteau et chercha un coin pour dormir. La nuit était venue, en effet, et c'était à la lueur des torches qu'on avait vidé les derniers brocs, poussé les derniers cris de « Mort aux Huguenots ! À bas d'Épernon ! Suse aux ordinaires d'Hérode !» Puis les dernières torches s'éteignirent. 10 heures sonnèrent au petit clocher du village. À ce moment, dans l'avant-dernière maison en allant vers Chartres, 2 hommes dormaient côte à côte, étendus sur des bottes de paille de la grange. Ou du moins, si l'un de ces 2 hommes, en proie à quelque insomnie, soupirait et se retournait sur la paille, l'autre dormait pour 2 et, comme on dit, à poing fermé. Dans cette même maison, non plus dans la grange ni sur la paille, mais dans une chambre assez convenable du rez-de-chaussée et sur un bon lit, dormait un autre personnage. Celui-ci ronflait à rendre des points au roi Henri de Navarre, qui, comme chacun sait, était le plus terrible ronfleur de son époque. Et qui se fût approché de cet enragé dormeur, pour qui le sommeil était une façon de musique à outrance, eût reconnu l'un des plus fidèles, des plus solides et des plus brillants gentilshommes du duc de Guise, c'est-à-dire messire de Bussy-le-Clerc en personne. Comme 10 heures venaient de tinter lentement au clocher, 4 hommes s'approchèrent de la maison que nous venons de signaler. C'étaient les 4 fidèles d'Henri III qui, profitant de la procession pour rejoindre le roi sans danger d'arrestation, avaient jusque-là voyagé avec elle. C'étaient Montséry, Sainte-Maline, Chalabre et Loigne qui guettaient depuis le premier jour l'occasion d'exercer leur talent de spadassin sur la poitrine du sire de Bussy-le-Clerc. Et comme Bussy-le-Clerc était considéré à bon droit comme la première lame du royaume, il leur sembla qu'il n'était pas trop de 4 pour mener à bonne fin leur entreprise, maintenant que l'occasion attendue semblait enfin se présenter. Ainsi que nous l'avons dit, la maison où Bussy-le-Clerc avait trouvé un gîte était l'avant-dernière sur la grande route. Elle était assez éloignée du reste du village pour qu'on ne pût entendre le bruit d'une lutte, si lutte il y avait. Les 4 spadassins marchèrent résolument à la maison. « Tu es sûr que c'est là ?» demanda Sainte-Maline. « Je ne l'ai pas perdu de vue, » répondit Chalabre. « Sûrement nous allons trouver le sanglier dans sa bauge. » Ils s'arrêtèrent devant la chaumière et tinrent conseil à voix basse. « Comment allons-nous procéder ?» demanda Montséry. « Moi, je veux me battre avec lui, » dit Sainte-Maline. « Je m'en charge. » « Et s'il te tue ?» « Vous me vengerez !»« C'est cela !» firent Chalabre et Montséry. « Bataille !»« Messieurs, » dit Loigne, « je crois que vous perdez la tête. Il s'agit bien de duel et de combat. Il s'agit bien ici de faire les mignons. Parce que ce maroufle vous a injurié de son mieux, quand il vous tenait à la Bastille, vous voulez, par-dessus le marché, qu'il nous étripe l'un après l'autre ?» Loigne était le plus âgé des 4. C'était un homme sérieux et positif, exerçant en conscience son métier d'assassin royal. On l'eût bien surpris en lui parlant de pitié ou de loyauté. La ruse la mieux ourdie, le coup de poignard le plus sûr, voilà les garanties morales qu'il prisait par-dessus tout. Les 3 autres, tout jeunes, comme nous avons dit, avaient encore quelques préjugés. Certes, ils pouvaient se vanter déjà de plus d'un coup de dague doucement administré à quelque détour de ruelle, dans le dos de quelque ennemi de Sa Majesté, mais il n'était pas au degré de perfection atteint par le comte de Loigne. Devant les sages observations de leur aîné, leur maître en guet-apens, ils baissèrent donc la tête. « Que faut-il faire ? » demandèrent-ils. « C'est bien simple, nous allons l'appeler comme si son duc le mandait à l'instant. Nous aurons nos dagues à la main, et quand il sortira, nous le larderons proprement jusqu'à ce qu'il rende sa belle âme au diable. Il faut rendre cette justice aux trois jeunes écervelés qu'ils se rallièrent instantanément à ce plan si limpide. « Par où entre-t-on ? » reprit le comte de Loigne. « Il faut faire le tour, » dit Chalabre, qui toute la journée avait guetté pas à pas Bussy-le-Clerc. « Suivez-moi, messieurs !» Chalabre enfila aussitôt un sentier et, à 20 pas de la route, sauta lestement par-dessus une porte à claire-voie. Les autres le suivirent. Ils se trouvaient alors dans une cour dont le sol disparaissait sous le fumier. Derrière eux, ils avaient une grange où, sur la paille, dormaient les deux inconnus que nous avons signalés tout à l'heure. Sur leur droite, au fond, c'étaient des étables et un poulailler. Devant eux, la maison, ou plutôt la chaumière, divisée en deux parties. À droite, le logis assez vaste des maîtres de séance, et à gauche, une chambre isolée, avec sa porte particulière. C'était là, dans cette pièce qui était comme la salle d'honneur de cette pauvre maison de paysans, c'était là, donc, que de tout son cœur dormait Bussy-le-Clerc. Chalabre désigna la porte du doigt. « Il est bien capable de se sauver par la fenêtre !» gronda Loigne. « Il n'y a pas de fenêtre !» dit Chalabre. C'était vrai. Les fenêtres étaient alors un luxe. Dans la plupart des chaumières, la porte, divisée en deux parties, servait à éclairer et aérer les pièces enfumées. Il n'y avait pour cela qu'à laisser ouverte la partie supérieure. « Admirable !» dit Loigne. « Attention !» Tous les quatre dégainèrent leurs dagues. Sainte-Maline et Montséry se placèrent à gauche de la porte, le long du mur, prêts à bondir sur Bussy-le-Clerc dès qu'il apparaîtrait. Chalabre se plaça à droite. Puis Loigne, ayant jeté un coup d'œil satisfait sur ce dispositif d'attaque, heurta rudement à la porte du pommeau de son épée. La lune, bien qu'en son dernier quartier, éclairait suffisamment ce tableau. « Hola, hola, messire de Bussy-le-Clerc !» vociféra le comte de Loigne. « Qui va là ? » dit une voix de l'intérieur. « Vite, éveillez-vous et courez à Monseigneur qui vous mande à l'instant. »« Au diable, Monseigneur !» grommela Bussy-le-Clerc. « Attendez-moi, monsieur, je m'habille. » « Non, non, je cours éveiller monsieur de Menneville, que le duc mande également. Hâtez-vous donc » Là-dessus, Loigne s'effaça contre le mur, près de Chalabre. Le clerc, habitué à ses alertes continuelles, ne pouvait avoir aucune défiance. Les quatre, ramassés sur eux-mêmes, la dague à la main, attendaient. Tout à coup, ils entendirent le bruit que faisait Bussy-le-Clerc en commençant à ouvrir la porte. « Bonsoir, messieurs !» dit à ce moment une voix très calme et sans nulle raillerie apparente. « Il paraît que vous voulez meurtrir ce bon monsieur de Bussy-le-Clerc, gouverneur de la Bastille. » « Ouais !» gronda le clerc, qui, à l'intérieur, s'arrêta d'ouvrir. « Que veut dire cela ?»« Trahison ! Trahison !» hurla le comte de Loigne. « À mort !» crièrent les trois autres en s'élançant le poignard levé sur l'homme qui venait de parler et qui, sortant de la grange, s'avança en saluant poliment et répétait « Bonsoir, monsieur de Chalabre. Bonsoir, monsieur de Sainte-Maline. Bonsoir, monsieur de Montséry. » Les poignards levés s'abaissèrent. Les trois jeunes gens s'arrêtèrent, reculèrent et saluèrent très bas. Un rayon de lune se jouait sur le fin visage audacieux et paisible de celui qui venait d'intervenir, et ce visage, il venait de le reconnaître. Loigne, ne comprenant rien à cette scène imprévue, aussi rapide qu'un éclair, Loigne, ivre de fureur, fit un bond pour s'élancer sur ce défenseur de Bussy-le-Clerc. Mais en même temps, il se sentit saisi à bras-le-corps et solidement contenu par ses trois amis. « C'est notre sauveur !» dit Chalabre. « C'est celui qui nous a tirés de la Bastille !» dit Montséry. « C'est le chevalier de Pardaillan !» dit Sainte-Maline. Loigne recula d'un pas, se découvrit et dit « Eussiez-vous été le pape en personne, que vous eussiez tâté de mon fer pour le mal que vous faites ici. Mais vous êtes monsieur de Pardaillan, et je n'ai rien à dire. Retirez-vous donc, chevalier, et laissez-nous accomplir notre besogne. »« Si je vous laisse faire maintenant !» cria la voix narquoise de Bussy-le-Clerc derrière la porte. Bon, patiente un peu et tu verras comme on défonce une porte et une poitrine, répondit Loigne. Monsieur, ajouta-t-il en s'adressant à Pardaillan, c'est Bussy Leclerc qui est là. C'est votre ennemi autant que le nôtre. Je pense que si vous ne voulez pas nous aider, vous nous laisserez du moins oxyre en paix ce sacripant. Messieurs, dit Pardaillan en s'adressant aux trois jeunes gens, lorsque j'eus le bonheur de vous tirer des mains du digne gouverneur de la Bastille, vous m'avez promis, en échange des vôtres, trois vies et trois libertés. C'est vrai, firent d'une seule voix Chalabre, Montsérie et Sainte-Maline. J'ai donc l'honneur de vous prier de payer cette nuit le tiers de votre dette. Je vous demande la vie et la liberté de monsieur de Bussy-Leclerc. Les trois spadassins d'un seul mouvement s'inclinèrent. Loigne lui-même rengaina aussitôt sa dague et son épée qu'il avait tirées. C'étaient des gens d'honneur. Et si ce mot vous choque, lecteur, mettez-en un autre à la place. « Je n'ai rien à dire, grogna Loigne, mais j'enrage. » « Monsieur, dit Sainte-Maline en saluant galamment, nous vous cédons Bussy-Leclerc. » « Reste à deux, observa tranquillement le chevalier. « Très juste, dit Montsérie, et nous tiendrons parole jusqu'au bout. Cependant, un bon conseil, réservez pour vous-même une des deux vies qui nous restent à payer, car c'est un mauvais tour que vous jouez ce soir à Sa Majesté, et elle pourrait bien nous donner l'ordre de vous tuer ce que nous serions désolés de faire si nous ne vous devions plus rien. » « Vous êtes trop bon, monsieur, dit Pardaillan, qui salua de son geste le plus gracieux. Mais quittez tout souci en ce qui me regarde, et puisque vous êtes si bon payeur, messieurs, veuillez me laisser le champ libre. » Les quatre hommes saluèrent et se retirèrent, sans répondre à Bussy-Leclerc, qui, derrière sa porte, criait « Au revoir, messieurs, je vais vous faire préparer un cabanon digne de vous à la Bastille. » Mais Sainte-Maline revint brusquement sur ses pas. « Monsieur le chevalier, fit-il, y aurait-il de l'indiscrétion à vous demander pourquoi vous sauvez ce damné Leclerc qui, somme toute, vous veut autant de mal qu'à nous ?»« Aucune, monsieur, répondit Pardaillan. Je suis aussi bon payeur que vous, voilà tout le secret de ma conduite. J'ai formellement promis sa revanche à monsieur de Bussy-Leclerc. Or, comment aurais-je tenu ma promesse si je l'avais laissé tuer ce soir ?» Sainte-Maline regarda avec étonnement le chevalier qui souriait, salua et se hâta de rattraper ses compagnons. « Maintenant, il s'agit de fuir, dit Loigne. Dans quelques minutes, Leclerc va ameuter toute la damnée procession. » Loigne était furieux contre Pardaillan, contre ses trois amis, contre lui-même. Mais comme la fureur ne pouvait remédier à rien, il la ravalait. C'était un homme pratique. « Eh bien, dit Chalabre, prenons à pied le chemin de Chartres. » Loigne se mit à ricaner et conduisit ses trois compagnons à un champ où les chevaux de Guise et de son escorte étaient attachés au piquet par le bridon. Chacun d'eux se glissa vers un cheval, le détacha et, sans le sceller, sauta dessus. Quelques instants plus tard, au milieu des vociférations, des cris de « Arrête ! Arrête !» les quatre spadassins s'élançaient ventre à terre sur la route de Chartres et disparaissaient dans la nuit. Pendant ce temps, Pardaillan s'était approché de la porte derrière laquelle se trouvait Bussy-Leclerc et avait frappé du poing en criant « Monsieur, hé, monsieur de Bussy-Leclerc !»« Que désirez-vous, sire de Pardaillan ?» demanda Leclerc goguenard. « Moi, rien. Je veux simplement vous dire que maintenant je suis seul, très seul. » « Et alors ?» Alors, s'il vous convient d'essayer de prendre cette revanche après laquelle vous courez depuis si longtemps, eh bien, je suis votre homme. Bon, je préfère attendre. Comme il vous plaira, monsieur. Soyez tranquille, vous n'y perdrez rien. Ce n'est pas bien sûr, monsieur le gouverneur, dit Pardaillan. Bah, fit Leclerc toujours narquois, vous croyez donc que je n'oserais pas affronter votre rapière? Non pas, je vous tiens pour aussi brave qu'habile aux armes. Mais j'ai tant de chances d'être tué par d'autres qu'il ne vous en reste guère de me retrouver. Qui sait si j'arriverai seulement jusqu'à Chartres ?»« Si vous mourrez d'ici là, reprit Bussy-Leclerc avec cette fois une sorte de grondement haineux, soyez sûr que je le regretterai, car c'est ma plus douce espérance maintenant que de penser à l'heureux moment où je vous mettrai les tripes au vent. »« Merci, dit Pardaillan, Qui donc vous empêche, en ce cas, d'essayer de satisfaire cette douce envie à l'instant ? Ah, reprit Leclerc, c'est que je ne suis pas égoïste, moi. Je vais vous dire. Nous sommes quatre qui vous haïssons et nous avons lié parti pour vous mettre à mal. Je puis même vous dire comment les choses se passeront. Je serai flatté de l'apprendre. Vous allez voir comme c'est simple. D'abord, comme je vous l'ai dit, je vous passerai mon épée au travers du ventre sans vous tuer toutefois. Puis Menneville vous attachera à l'aile du premier moulin. C'est une manie chez lui, vous comprenez ? Puis, quand vous aurez tourné suffisamment, c'est-à-dire jusqu'à ce que mort s'en suive, Maurevers vous arrachera le cœur, car il a fait gageure de le manger sauté au petit lard. Enfin, Monseigneur de Guise abandonnera votre carcasse au bourreau pour la tirer à quatre chevaux. Pardaillan comprit que Bussy Leclerc, en parlant ainsi, devait écumer. Il entendit grincer des dents. « Vous comprenez, reprit Leclerc, que si je vous tuais tout de suite à moi tout seul, mes trois associés m'en voudraient la malle mort. Tâchez donc de vivre encore quelques jours, jusqu'à ce que nous puissions mettre la main sur vous. » « Je tâcherai, dit doucement Pardaillan, mais vraiment, je vous répète que je crains de ne pas arriver vivant jusqu'à Chartres. Vous devriez profiter de l'occasion. »« Non, rugit Bussy Leclerc. Allons donc, c'est que tu as peur, Leclerc. » La porte à l'intérieur fut labourée de coups de poignard. Il y eut un trépignement, une série de grognements furieux. « Bussy, Leclerc a peur !» cria Pardaillan à haute voix. « Par le pied fourchu du démon, par le sang du Christ, par le ventre de ma mère !»« Tu me fais pitié à t'entendre pleurer et trembler de peur !»« Truand de sac et de cordes, si Maurevers te mange le cœur, je te mangerai le foie !» Bussy Leclerc se mit à frapper la porte à coups de dague. Pardaillan haussa les épaules et, dans la cour, sur le fumier, à la clarté de la lune, il vit les gens de la chaumière qui, réveillés par le bruit, étaient sortis et, livides d'effroi, assistaient à cette fantastique conversation. Au mouvement que fit Pardaillan, ces gens reculèrent jusqu'à l'étable. Sans s'inquiéter d'eux, sans les voir peut-être, le chevalier se dirigea vers la grange et, à l'entrée, trouva son compagnon qui, l'épée à la main, attendait les événements. « Oh ! Murmurait le jeune duc d'Angoulême, « c'est affreux !»« Quoi donc ?»« Les menaces de cet homme !»« Oui, c'est assez hideux. Partons, monseigneur, l'air de ce village est malsain pour nous maintenant. Et quant à Maurevers, nous le retrouverons sûrement à Chartres. » Les deux hommes s'enveloppèrent de leurs manteaux et d'un pas rapide prirent la route de Chartres. Bussy Leclerc continuait à sacrer et à faire derrière sa porte un vacarme extraordinaire. Au bout de 10 minutes, les paysans s'approchèrent de la porte et le maître du logis, ôtant son bonnet, cria « N'ayez plus peur, monseigneur, il est parti !»« Par l'enfer !» vociféra Leclerc en entrouvant la porte. « Qui a dit que j'ai peur ? Est-ce toi, Manant ? « Veux-tu que je te fasse pendre à cette branche pour t'apprendre qu'un gentilhomme n'a jamais peur ?» Les manants tremblèrent et se mirent à balbutier force excuse, car la menace n'était pas vaine. Alors Bussy Leclerc, la dague et l'épée au poing, sortit et grogna. « Où est-il ? » Le paysan voulut rentrer en grâce et répondit « Je ne sais par où il a pris, monseigneur, mais le fait est qu'il a fui et il doit être loin. » Leclerc engaina ses armes et grommela « Il n'a pas plus fui que je n'ai eu peur. » Bussy Leclerc ne mentait pas. Il n'avait pas eu peur, peur d'être blessé ou tué. C'était un de ces rudes batailleurs pour qui le mot « mort » était vide de sens. Mais il avait eu peur d'une nouvelle défaite. Son amour-propre saignait. Et l'effroyable explication qu'il avait donnée à Pardaillan était exacte. Guise, Maurevers, Menneville et Leclerc avaient résolu de s'unir pour terrasser Pardaillan et ne rien tenter l'un sans l'autre. Bussy Leclerc sortit donc en toute hâte de la chaumière et, par un chemin de traverse que lui indiquèrent ses hôtes, gagna la place de l'église, au coin de laquelle se dressait un grand calvaire. Autour de ce calvaire, quelques tentes avaient été dressées et le duc de Guise dormait dans l'une d'elles sur un lit de camp, tandis que Maurevers et un autre officier dormaient sur des bottes de paille. Quant à Menneville, il avait, comme Bussy, cherché gîte dans le village. Leclerc envoya chercher Menneville, qui, une demi-heure plus tard, arriva en pestant fort contre l'interruption de son sommeil. Alors il fit également réveiller le duc, et, ayant eu la permission d'entrer dans la tente, les quatre se trouvèrent réunis. Et Bussy Leclerc fit le récit de ce qui venait de se passer. Guise proféra une imprécation de rage. Menneville sortit sa dague et en tâta la pointe. Maurevers prononça ces étranges paroles. « Puisqu'il en est ainsi, monseigneur, le voyage à Chartres est inutile. Nous ferions mieux de retourner à Paris. »« Pourquoi ? » s'écrièrent Menneville et Bussy Leclerc. « Parce que, dit sourdement Maurevers, si Pardaillan est dans la procession est maudite. Parce que ce n'est pas Henri III qui sera tué, mais nous. » Et ces quatre hommes, également braves, dont l'un était tout puissant, passèrent le reste de la nuit à discuter comment ils se débarrasseraient de l'aventurier. Guise, sombre et pensif, écoutait sans rien dire ses trois fidèles conseillers. Mais comme le jour se levait, il donna l'ordre de se remettre en route. « Pour Paris ? » demanda Maurevers. « Pour Chartres, » répondit le duc. « Pardieu ! » firent Bussy et Menneville. « C'est tout simple. » Maurevers haussa les épaules et s'assura que sa côte de maille était solidement bouclée. La procession se mit en marche, dans le même ordre que nous avons dit, avec les mêmes chants et les mêmes cris. Tout ce monde s'engouffra par la porte Guillaume dans la bonne ville de Chartres et se dirigea vers la cathédrale. Ce qu'on appelle aujourd'hui la ville haute n'existait pour ainsi dire pas à cette époque. En revanche, la ville basse a gardé à peu près l'aspect qu'elle avait alors, avec ses ruelles tortueuses, ses maisons à pignons gothiques, chargées de sculptures en bois, hérissées de tourelles. Une fois la porte franchie, la tête de la procession se trouva en présence d'une nombreuse troupe armée. Guise reconnut Crillon à cheval qui venait à sa rencontre. « Monseigneur, dit Crillon, Sa Majesté m'a fait l'honneur de me charger de vous venir souhaiter la bienvenue, ainsi qu'aux fidèles sujets qui vous escortent. » Un grand silence s'établit. Guise jeta un sombre regard sur les ruelles avoisinantes qui regorgeaient d'hommes d'armes. Crillon reprit. « Sa Majesté, pour vous faire honneur, voulait absolument que je vinsse à votre rencontre avec 8000 arquebusiers et les 3000 cavaliers que nous avons assemblés autour de Chartres. Mais j'ai fait observer à Sa Majesté que 2 ou 3 000 hommes suffisaient pour escorter une procession. Vous avez bien fait, messire. Où et quand pourrais-je voir le roi avec les échevins de Paris ? Le roi est en ce moment à la cathédrale. Allons donc à la cathédrale, dit Guise. Monseigneur, je vous montre le chemin. Il serait inutile que ces dignes pénitents essayassent d'en trouver un autre que celui par où je vais avoir l'honneur de vous conduire. En effet, toutes les rues sont pleines de nos gendarmes, qu'a attiré une légitime curiosité, sans compter les bourgeois de cette bonne ville qui attendent le roi pour l'acclamer. Allez, messire, dit Guise, nous sommes venus en fidèles sujets et nous joindrons nos acclamations à celles de la ville. Et levant sa toque en panaché et ornée d'un triple rang de perles, Guise, d'une voix forte, cria « Vive le roi !» Mais derrière lui, une immense acclamation répondit « Vive Henri le Saint !» C'était la procession qui donnait ainsi son avis, si bien que Crillon se demanda un instant s'il ne ferait pas mieux de fermer les portes et de laisser hors des murs les 3/4 des pénitents qui attendaient. Mais Crillon, brave amoureux du danger, se dit qu'il serait ridicule d'avoir l'air de redouter des porteurs de cierges. Ordonnant donc à ses hommes d'un coup d'œil de surveiller étroitement les arrivants, il se dirigea vers la cathédrale. Guise suivait avec ses gentilshommes. Derrière ce groupe venait la procession des Parisiens que les gens de la ville, du haut de leurs fenêtres, examinaient curieusement et non sans une certaine sympathie. L'apparition de Jésus, suant sous son énorme croix de carton et plus flagellée que jamais, fut saluée par un long murmure de pitié, d'autant plus que Jésus criait à pleine voix « Sire, sire, roi de France, où êtes-vous ? N'êtes-vous pas le fils aîné de l'Église ? Me laisserez-vous ainsi maltraité par les damnés huguenots ?»« Mort aux parpaillots !» crièrent d'enthousiasme les bourgeois à leurs fenêtres. Guise devint radieux. Le front de Crillon s'assombrit. Devant la cathédrale, la foule était plus serrée, plus nerveuse, et Guise put lire sur tous ces visages de bons provinciaux la curiosité passionnée qu'il inspirait. En effet, Henri III, après sa fuite, avait été accueilli par les habitants de Chartres avec courtoisie, mais sans enthousiasme. Là, comme dans tout le royaume, le nom de Guise était populaire et celui du roi méprisé ou détesté. Le duc comprit alors la faute terrible qu'il avait commise en perdant un temps précieux. S'il s'était fait couronner le lendemain de la journée des barricades, la France entière le reconnaissait et l'acclamait. Il avait cru ne tenir que Paris. Il avait eu peur des provinces. « Oh, Faustat ! » murmura-t-il, « comme vous aviez raison ! Et pourquoi ne me suis-je pas confié à votre profonde sagesse ? Mais il n'est pas trop tard, un coup de poignard peut tout réparer. » Et il jeta les yeux autour de lui, comme pour chercher s'il n'apercevait pas le moine. À ce moment, les portes de l'immense cathédrale s'ouvraient, et une foule de gentilshommes en sortait, refoulant les bourgeois. En même temps, les soldats de Crillon, par une habile manœuvre, coupèrent la procession et ne laissèrent autour de Guise qu'une dizaine de ses familiers. « On se méfie de nous, ici !» dit le duc en fronçant le sourcil. « Non pas, monseigneur, on vous rend les honneurs !» répondit Crillon. Joyeuse, quelques-uns de ses apôtres et ses deux flagellants se trouvaient dans le cercle formé par les gendarmes, les gentilshommes royaux et la foule. « Frappez, frappez !» dit Joyeuse. Les deux flagellants se mirent à frapper à tour de bras avec leurs fausses lanières. « Sire !» s'écria Jésus. « Sire, roi de France, où êtes-vous ? Voyez ce que font les Huguenots. Et pourtant, je ne me plains pas. » Un grondement de la foule des bourgeois répondit à ces paroles. Et déjà, comme à Paris, les cris de « Vive Henri le Saint !» éclataient lorsque Jésus, c'est-à-dire Joyeuse, se mit à pousser des lamentations qui, cette fois, n'avaient rien de fin. En effet, quatre pénitents venaient de s'approcher de lui et s'étaient mis à le flageller, non plus avec des lisières de drap ou des lanières de carton, mais avec de bonnes et solides étrivières de cuir. Du coup, Joyeuse laissa tomber sa croix. Il voulut bondir, s'échapper, mais les quatre le tenaient et les coups tombaient sur ses épaules, sur ses reins, sur sa tête. « Miséricorde !» hurlait l'infortuné. « Au meurtre ! Au feu ! À moi ! On me tue !» Cela dura quelques minutes, pendant que les soldats contenaient la foule, pendant que Guise, pâle et stupéfait, se demandait s'il n'était pas venu se jeter dans la gueule du loup. Les quatre enragés frappaient de plus belle, et Joyeuse ne laissait plus entendre qu'un gémissement plaintif. « Assez !» dit tout à coup une voix forte. Un homme venait de paraître sous le porche de la cathédrale et s'avançait vers Jésus. Les quatre flagellants cessèrent aussitôt leur besogne et, s'étant précipités dans l'église où ils se dépouillèrent de leur froc, apparurent sous les traits de Chalabre, Montséry, Loigne et Sainte-Maline. L'homme qui venait de surgir s'avançait avec une sorte de dignité vers le malheureux Joyeuse. À son aspect, un grand silence s'établit. Les gens de Crillon présentèrent les armes, Guise mit pied à terre et, se découvrant, s'inclina profondément. Cet homme, c'était le roi de France. À son aspect, un grand silence s'établit. Les gens de Crillon présentèrent les armes, Guise mit pied à terre et, se découvrant, s'inclina profondément. Cet homme, c'était le roi de France.